dans les Corinthiens, frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour divin, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal. Mais il trouve sa joie dans ce qui est véritable, dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, l'accomplissement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment. Je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Bienheureux le peuple de Dieu. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Bienheureux le peuple de Dieu. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espérance est en toi. Bienheureux le peuple de Dieu. Hallelujah. Alléluia. 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 Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie. De la vie éternelle. Alléluia. 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 Seigneur soit avec vous. Avec vous. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint. Gloire à toi. Jésus disait à la foule à qui donc je vais comparer les hommes de cette génération. À qui ressemble-t-il? Ressemble à des gamins assis sur la place qui s'interpellent entre eux. Nous avons joué de la paix. Et vous n'avez pas dansé, et nous avons entonné des chants de deuil, et vous n'avez pas pleuré. Jean le baptiseur est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous vous dites c'est un possédé. Et le fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Répande sa rose et vivion sur toute l'orbe de la terre. Et les prépare à la bénédiction qui doit voir s'ouvrir sous tous les yeux les portes de la Jérusalem. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, l'Évangile nouveau nous libère de toute entrave et de l'âme de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui nous fasse glorifier Dieu à jamais. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia. Louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia, louange à toi, Alléluia. Voilà, c'est un peu c'est notre dernière nuit, hein, parce que demain. Puisque c'est aujourd'hui qu'on se disperse. Nous avons lu dans le prophète Ézéchiel, très beau, que le peuple de Dieu se répand grâce aux kéroubim partout. Et la gloire de Dieu se répand partout. Alors, puisqu'on fait un titre de garde dans le rite extraordinaire, on invoque un titre de garde aujourd'hui. Pour partir comme ça. Et Ézéchiel disait déjà hier que toute l'assemblée de la gloire de la Kabod d'Elohim se remplit l'univers, remplit les airs, remplit le temple, remplit la matière, remplit les éléments. Et du coup, tout Israël se tourne vers le nord. Se tourna vers le nord et s'enfonça vers le nord. C'est-à-dire, vous savez, le fameux. Vous vous rappelez avec saint titre de garde, le nord, c'est c'est le domaine de, c'est le domaine des ténèbres, le domaine de la nuit. Elle se tourne vers le nord pour le compresser en lui-même et qu'il reste totalement, complètement enfermé dans son vide. Et définitivement, c'est ça, hein, la fonction des derniers temps. On se répand et en étant les mains comme ça, on touche ici le cercle éternel de toutes les présences de Dieu dans tout l'univers et on va vers le nord comme ça et on contraint le mal, les ténèbres de se concentrer dans ce nord là où il va être entièrement englouti dans son vide à jamais. Le mal ne sera pas supprimé, les démons ne sont pas supprimés, mais au moins ils sont concentrés dans l'éternité. Dans leur éternité, ils resteront entre eux. La nuit se battra avec la nuit, puis voilà. La ténèbre se battra avec la ténèbre. Ah, c'est ça la dernière mission hein, d'Israël, du nouvel Israël de Dieu sur la terre, de l'ouverture des temps. De temps en temps, il faudra savoir faire comme Saint Hildegarde, ouvrir les bras comme ça. Et savoir qu'en ouvrant les bras, il y a le grand cercle. Le grand cercle, c'est-à-dire on possède tous les confins de l'univers et tous les éléments. Et avec cette possession, on va vers le nord et on enchaîne comme Notre-Dame de la Salette, Satan, dans son enfer éternel. Dans le lieu où il doit résider, puis c'est tout, et qu'il a choisi pour lui-même. Mais en même temps, tout resplendit dans l'éternité, et aussi dans toutes les splendeurs des éléments. Et nous avons autorité, et Dieu a autorité sur nous, c'est-à-dire qu'il est éternellement, voilà pour le cercle, dans l'humain, le Fils de l'homme, et il est en même temps l'engendré et le Dieu vivant, dans l'unité. Voilà, et c'est finalement une chose merveilleuse que d'avoir autorité sur la nuit. Et même dans la nuit, vous voyez, on reprendra souvent ces révélations que le pape Benoît XVI a dit de Saint Hildegarde qu'elles étaient pour notre génération. Puisqu'il l'a fait docteur de l'Église il y a quelques mois, et par conséquent, à partir de maintenant, les révélations apocalyptiques de Saint Hildegarde doivent être fécondes et au ciel et sur la terre. Et de la terre, elles doivent être resplendissantes jusque dans les cieux. Et nous sommes donc les porteurs de cet apocalypse. Alors, il y a l'apocalypse aussi de Notre-Dame de la Salette. L'apocalypse de Notre-Dame du Lauzes, de la sœur Benoîte. Et on a une très belle vocation. On va, puisque ceux qui étaient invités au repas de la noce, abandonnent. Ah ben voilà, alors on va à la croisée des chemins, on va partout, et on invite les éléments. On invite tous les temps de l'histoire humaine du passé, tous les temps de l'histoire humaine d'aujourd'hui. Tous les temps de l'histoire humaine d'aujourd'hui, ça veut dire notre génération, quoi, hein, la génération chrétienne. Et tous les temps des générations futures, hein, c'est-à-dire des sources d'Apocalypse qui doivent s'ouvrir jusqu'à la fin. Et tous les temps aussi disparus dans la gloire angélique d'éternité glorieuse. Et aussi tous les temps triomphants de l'innocence divine de Jésus. Lorsqu'il a enfoncé son union hypostatique commençante dans le temps, il a enfoncé dans le mystère de la résurrection. Cette union hypostatique commençante, enfoncée dans le mystère de la résurrection, a fait éclater le mystère de la résurrection lui-même dans l'ouverture du voile. Nous en prenons possession aussi. Prenons possession de tout ça. Prenons possession de tous ces éléments. Nous en prenons possession aussi. C'est extraordinaire. Bon, facilement, disons. Il y a quand même le soleil, il y a quand même la lune dans Saint Hildegarde, hein, par exemple. Traduisez, il y a le mystère d'Élie, le prophète, et le ministère des deux témoins de l'Apocalypse. Bon, je reviens là-dessus si vous voulez, parce que normalement ça va nous aider, ça nous aide ça. Élie, qu'est-ce qui fait que Élie a eu le... a été un... est très important pour nous. Élie le prophète, c'est il y a 2888 ans, vous rendez compte? C'est génial de savoir ça. Il y a 2888 ans, Élie, un bonhomme, c'est le seul. Tout le monde en Israël avait abandonné la foi, quoi. Hein? Il n'y avait pas un seul prêtre en Israël, pas un seul fils de Lévi qui était resté fidèle, pas un seul, pas un seul. Il a été le seul à rester fidèle à l'oraison. Il y avait qu'un dans toute la terre, ça a duré plus de 20, 30 ans, 40 ans. Il a été le seul à faire oraison sur toute la terre. Et une oraison parfaite, si vous voulez, une oraison fidèle, une oraison continuelle, une oraison toujours augmentante, vous voyez. Et du coup, un jour, dans sa grotte là-haut, où nous sommes allés, certains d'entre nous, il a vu dans l'horizon là-bas, dans le fond du ciel, le fond de la mer, là, il a vu une petite gloire dans les nuées, une cabote, une gloria, une gloire très silencieuse, très immaculée. Il a vu la Vierge dans le lointain. Il a vu la Vierge. La Vierge est apparue. Et cette petite Vierge, il l'a vue, il l'a contemplée. Il s'est envolé spirituellement, surnaturellement en elle. Il a compris qu'il devait vivre dans son sein et vivre l'oraison dans son sein. Et c'est comme ça qu'il a fondé le Carmel, une oraison virginale, d'une pauvreté substantielle et d'une obéissance à la volonté éternelle du Père parfaite. Et ceci de manière continuelle. C'est ce lien avec Marie qui fait, avec l'accomplissement final, lointain. Il a vécu l'accomplissement final du mystère de compassion de Marie. Dans son oraison, c'est comme ça qu'il est le fondateur du Carmel, c'est-à-dire de la pénétration dans tous les horizons intérieurs et extérieurs de la Jérusalem céleste. Donc Élie, si vous voulez, c'est quand même facile. C'est son lien avec Marie qui a permis avec l'accomplissement marial final de tous les horizons, qui a fait qu'il est rentré. Et du coup, il a été quand même emporté sur ce char de feu, cette cabode, cette gloire sensible de Marie. Si vous voulez, il y a des gens qui, dans l'oraison, n'ont aucune sensibilité. Bon, d'accord, c'est vrai, c'est terrible que Jésus ait souffert, la compassion de Marie, c'est terrible, terrible, mais je ne le ressens pas. C'est incroyable, cette insensibilité. Tout en nous est pris par la compassion de Marie dans l'union transformante. Tout palpite, tout est... Bon, chez Élie, en tout cas, il y a l'apprentissage de la union transformante universelle et accomplie en Marie. Et c'est ce qui fait qu'il échappe quelque part au ministère du temps. Et c'est pour ça qu'il est emporté. Et ça fait 2888 ans. Vous savez qu'il doit revenir. Hein? C'est pour ça que nous aimons tellement Garabandal. Vous savez qu'il va revenir, on a vu, ils ont vu, ils étaient 52 exactement, avoir de leurs yeux et le prophète partir sur un char de feu. Hein. Il a laissé son manteau, c'est pour ça qu'on porte un scapulaire. C'est depuis qu'on porte un scapulaire, ceux qui ont décidé de faire oraison. On va le voir, nous, on va le voir, je ne sais pas, est-ce que c'est dans 3 mois ou est-ce que c'est dans 3 ans, je ne sais pas exactement. Mais on va le voir, hein. On va le voir. Et il va mourir, parce qu'il n'est pas mort. Et comme il est parti sur les nuées du ciel, il est parti dans une zone qui se trouve un petit peu, bon, là-bas, du côté du sud oriental, là, dans un endroit où se localise le paradis, mais le paradis terrestre. Mais le paradis terrestre, on est tellement débile qu'on n'arrive pas à voir avec les yeux d'aujourd'hui ternis, on n'arrive même pas à le repérer. Mais il est là-bas. Il va revenir, visiblement. Et puis, il va mourir. Puisqu'il n'est pas au ciel. Il n'est pas parti au ciel. Hein. Élie le prophète, il n'est pas parti au ciel. Hein. Il est sur notre terre. Et ça fait, il ne s'embête pas, vous inquiétez pas. Il a une activité très, 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 très fébrile. très énergique. Il n'y a rien plus énergique que Célie le prophète. Il est extraordinairement actif, lui. Il est extraordinaire, et on l'aime beaucoup. Ben, savoir qu'on va pouvoir se jeter dans ses bras, et que lui, moi, dit bon, oui, ça va. C'est sympa de savoir qu'on connaîtra. Et puis, il sera persécuté quand même. Hein. Et il va mourir sous nos yeux. Enfin, il va mourir, il sera mis à mort, quoi. Hein. Vous savez qu'il va mourir martyr. Vous saviez ça?
Oui.
Bon. Il va mourir martyr. Et après son martyr, qui aura lieu... Ah oui, il va falloir trouver plein de pierres. Eh bien, pour Enoch, c'est pareil. Mais Enoch, comme nous l'avons regardé l'autre jour, hier, Enoch, c'est quelqu'un, c'est ce patriarche extraordinaire. Regardez, quatrième commandement de Dieu, tu vénéreras tes racines paternelles. C'est vrai, on ne peut pas dire que ce soit une caractéristique extraordinaire de la prière catholique de vénérer Enoch, de vénérer Adam. C'est pas à scruter un petit peu. Il faut relire Sainte Hildegarde sur Enoch. Il faut relire Sainte Hildegarde, il faut relire Sainte Catherine Emmerich sur Enoch aussi. De toute façon, c'est pas très compliqué. Mais à un moment donné, l'horizon de prière est un horizon intérieur et sans limite, qui traverse tous les espaces de l'univers et l'au-delà des espaces de l'univers et l'enveloppement de tous les espaces de l'univers. Et dans le fond de cet horizon, il a vu le trône. Un peu comme Élie a vu, il a vu ce qui faisait de Saint-Joseph, ce qui faisait la mission de Saint-Joseph. Vous voyez ça? Donc c'est pour ça que je dis, Élie, c'est très lié à l'accomplissement marial. Et Enoch, c'est lié à l'accomplissement paternel. L'accomplissement paternel de Dieu dans les éléments, dans tous les éléments enveloppants et même immatériels de l'enveloppant de l'ensemble de la création. Saint Joseph, il a été celui qui, dès le départ, dans le pardon de l'Immaculée Conception, a reçu l'Immaculée Conception dans son accomplissement, très 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 longtemps avant sa propre naissance, et il a grandi avec ça, avec tout l'univers, l'au-delà de l'univers et l'unité du monde indivisible. Alors du coup, il a pu percevoir dans le fond où était le Saint des Saints de la paternité de Dieu. Il s'y engloutit à tel point que Saint Vincent de Paul et le Père Ollier disent que Saint Joseph, il y a des millions et des millions, des centaines de milliers de très grands saints qui manifestent la sainteté du Fils unique de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul qui manifeste la sainteté de la première personne de la très sainte Trinité, et c'est Saint Joseph. Et bien Enoch, à force de rentrer dans cette ascension des saintetés les plus sublimes de l'humanité originelle de l'Église primordiale, a pu cinq fois, j'allais dire, dans la disposition à l'engendrement de l'Immaculée Conception dans le temps. Il a pu toucher le trône paternel. Il a pu toucher quelque chose de cette gloire sensible, visible et très lointaine, mais accomplie. Il s'y engloutit. Et il a passé des années et des années, peut-être 100, 200 ans, je ne sais pas, à ne cesser de se joindre, de se conjoindre, de s'unir dans le delà de l'unité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été emporté, lorsque le nom d'Élohim lui a été révélé. Ça veut dire quoi que le nom d'Élohim lui a été révélé? Ça veut dire que la paternité incrée de Dieu, il a été englouti dedans. L'engendrement éternel de Dieu est dans la responsabilité de la deuxième personne, il est rentré dedans, et l'Esprit Saint aussi est rentré dedans, et dans l'unité extraordinaire dans la cabote accomplie de l'instrument glorieux, et d'un instrument glorieux de Saint-Joseph, il est rentré dedans aussi. Et il a été emporté devant ses... en présence de des gens qui vivaient avec lui, hein. Ils l'ont vu partir, Il est monté, d'ailleurs. Et il raconte, parce qu'il est revenu. Il est déjà revenu. Hein. Puis il est reparti. Il est allé. Et il raconte, d'ailleurs. C'est génial de voir comment Enoch raconte comment il faisait cet aller-retour entre l'horizon accompli de la paternité glorieuse de Saint-Joseph. Bon, il ne dit pas que c'est Saint-Joseph. C'est le théologien qui vous le dit. C'est génial. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quelque part, il faut qu'on fasse comme eux. Élie, et puis Enoch. Et du coup, quand il a été emporté, c'était pas sa mort, puisqu'il n'a pas connu la mort. Il est emporté vivant avec ça. Il a été déposé là, sur ce posé-là, pour les jours où nous sommes. Il doit revenir, on le verra. Il va redescendre, il va revenir. Il est resté comme ça, au sommet, et au-dessus même, de l'extrême sommet et sublime, de toutes les gloires angéliques glorieuses, de toutes les hiérarchies, lesquelles sont chacune sans aucune mesure intérieure. Et lui, il est là. Il ne s'embête pas, parce que vous savez, il n'y a pas un ange qui parle avec un autre. C'est un aspect. Et il distribue de là-haut, comme instrument, il distribue dans l'univers les rayonnements des préparations et des attentes angéliques glorieuses vis-à-vis de l'ouverture des temps. Et quand c'est l'ouverture des temps vient et commence d'arriver, il va arriver. On va le voir comme Élie. Et lui aussi, puisqu'il n'est pas mort, il n'est pas au ciel. Donc il va se retrouver, on va le voir, mais on ira, on le prendra un peu comme quelqu'un qui voit le pape, quoi. Il est là à un mètre, le pape va vers lui, écoute, on se jette dans ses bras. Mais si tu n'aimes pas Enoch, tu ne le verras pas. Enfin, il sera là-bas, à 3 km, il y aura. Mais si tu l'aimes dès maintenant, il sera tout proche. Moi, je suis content, je vais lui serrer la pince. Hein. Lui aussi, il sera persécuté. Nul ne va au ciel s'il n'a pas connu la mort. Il sera persécuté, il sera mis à mort. D'ailleurs, au même endroit et au même moment qu'Élie le prophète. Tous les deux vont mourir martyrs. On le verra à la télé, en plus. On le verra à la télé. Bon, ça, on s'en fiche. C'est la petite histoire extérieure. Si on les voit à la télé, quand ils seront persécutés, ils seront morts. Bon, 3 jours après, le troisième jour, le deuxième jour exactement, bon, et devant tout le monde, et devant la télévision, hop, ils vont ressusciter d'entre les morts, devant tout le monde, ils disent, voilà. Et, comme à la salette, ils vont monter au ciel, glorieusement ressuscités dans l'ascension. Et puis, ils vont rejoindre Marie, Jésus, Joseph, ressuscité. Hein. Et on le verra tout ça à la télé. L'Antichrist ne sera pas content, hein. Et donc, leur sainteté accomplie depuis des milliers d'années, comme ça, est en attente du jour où ils doivent être martyrs. Pendant ces siècles et ces siècles, ils attendent, ils aspirent à préparer le monde entier à être les témoins des témoins de l'Apocalypse. Ils l'ont tellement désiré que ça leur a été accordé. Et nous, nous y sommes et nous désirons beaucoup être de notre temps. Mais si on veut être vraiment dans le désir d'être de notre temps, il faut qu'on soit très très en harmonie et très complice avec Élie, avec sa spiritualité, avec Enoch. Eh bien, bien sûr, que la vie contemplative, surnaturelle, accomplie et glorieuse de Joseph et la vie surnaturelle, accomplie, glorieuse, actuelle et très incarnée de Marie, lorsqu'on les fait fondre à l'intérieur de nous dans une spontanéité de l'ouverture pour la maîtrise de tous les éléments, comme l'explique Saint-Hildegarde, nous met dans une proximité, une complicité divine avec eux, très extraordinaire. Et ça nous aide de savoir ça. Ça nous aide de savoir ça. C'est très 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 concret, l'union avec l'intériorité angélique glorieuse. C'est quelque chose de très concret. Et il faut s'y habituer. On dit, oulala, ça c'est un truc complètement dingue. Moi, j'essaye de diminuer mes médicaments. Oh là, moi, c'est pas mon problème. Non, non, je dis, non, non, c'est pas ça, non, non. Non, non, notre, non, non, c'est très concret d'être en union intérieure et de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de ce miracle des trois éléments. Le premier élément, c'est tout l'accomplissement du corps mystique vivant, de Jésus vivant, entier et glorieux en moi. Le monde angélique en Saint-Joseph, tout glorieux, qui s'engloutit comme ça dans le plus petit élément qui fait le trône de la glorification finale de Dieu. Et puis, le monde de Marie, dans l'union transformante du Saint-Esprit. Les trois s'associent en même temps en moi, dans mon oraison. C'est facile, finalement. Alors, on va célébrer la messe. On va célébrer cette messe pour que tous les petits conflits que nous avons là avec notre fille aînée, notre voisin, avec la sorcière qui est à l'intérieur de notre tête, avec la puce qui ronge la poutre de la maison, tous ces conflits là, allez, que ça ne nous touche plus, mais qu'on soit touché par l'Apocalypse. Que ça nous touche, le bruissement de l'Apocalypse qui apparaît, qui vient là. La contrainte de la nuit. L'avancée inexorable et désormais infaillible, invincible du Saint-Père, de Marie, de Joseph et de Jésus qui vient. Le monde angélique, du coup, qui a autorité pour venir s'engloutir en nous, intégralement. Vous voyez, la maîtrise des temps et la maîtrise de tous les univers. La maîtrise des temps, c'est Élie. Hein. La maîtrise de tous les univers, c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph, la maîtrise de tous les univers angéliques, les univers qui sont sous l'autel, dans les parfums et dans les gloires, et aussi dans les éléments. Il faut que nous puissions nous engloutir dans la maîtrise de tous les univers et nous faire resplendir dans la maîtrise de l'au-delà des temps. Parce que l'au-delà des temps, lui, prend toute sa signification et son déploiement dans le flux et le reflux libre entre l'éternité, le temps et l'éternité, le lien et la libération. Il faut s'habituer à s'engloutir dans la maîtrise de tous les temps. Le temps primordial du Bereshit, le temps primordial du passage à la résurrection universelle dans l'éternité, le temps passé, le temps présent, le temps à venir. Francesco, il dort, je crois, mais avant de partir, il était au téléphone avec une petite, là, qui fait des peintures, et qui lui a dit ça, ce que je suis en train de vous dire. Dis, la Sainte Vierge m'a dit, ce qui compte maintenant, c'est de maîtriser dans l'indivisibilité tous les temps passés, tous les temps futurs et tous les temps présents. Et c'est dans cette indivisibilité que la Sainte Vierge nous demande de pénétrer. La Sainte Vierge est venue lui dire, puis elle a téléphoné ça à Francesco. Bon, mais quand on entend ça, notre réaction, c'est pas d'aller dormir. Notre réaction, comme dit le Père Jean, Maman Morin, puisque le Seigneur nous a dit ça, et bien donc à nous de le faire. Et donc nous le. Et nous restons vigilants et bien pour le faire. Et donc la vigne, elle, va pouvoir ressusciter. Et elle va pouvoir se développer et développer tous ses rameaux. Et le Christ, s'il nous paraît bien terne, eh bien, il va devenir brûlant, vivant et tout glorieux. Et il va se donner à nous de cette manière.